Bonjour, soyez les bienvenus dans le journal de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 au sommaire aujourd'hui. Quelles conséquences du nouveau coup de chaud sur le marché du pétrole? L'attaque de drones en Arabie, la moitié de la production dans le pays est interrompue. Le prix du baril grimpe, les indices boursiers baissent, sauf les valeurs pétrolières. Qui gagne, qui perd dans cet épisode de crise? Fabien Cazot nous aide à y voir clair. Et question, qui derrière l'attaque? Les USA désignent l'Iran. C'est crédible, dit en termes prudents une spécialiste que nous avons joint. Une société morose, décliniste, qui a peur de l'avenir et rejette la plupart des institutions. Voilà le portrait inquiétant de la France, portrait dressé par la dernière étude sur les fractures françaises. C'est une étude annuelle. Nous en parlons avec notre invité, le président de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Comment réformer dans ces conditions le pouvoir face aux contestataires en cette fin septembre? Aujourd'hui dans la rue, les professions libérales contre la réforme des retraites et les agents des impôts contre les suppressions de postes. En tout cas, Emmanuel Macron met la pression sur ses ministres pour qu'ils fassent avancer les réformes. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Il a un nouvel outil pour les suivre à la trace?
Attention ministre, Big Brother is watching you. L'évaluation permanente en numérique. On vous raconte comment l'Elysée manage ses ministres pour obtenir toujours plus de résultats.
A tout à l'heure pour les détails. Vous avez entendu Élodie Callac juste avant ce journal. Le mois de septembre continue sous le soleil et sans pluie, jusqu'à 34 degrés aujourd'hui. C'est agréable à beaucoup d'égards, mais la sécheresse persiste et saigne. Situation de crise dans la moitié des départements, restrictions d'eau dans presque tous. Dans ce journal encore, qui est cet universitaire sans formation politique, parti pour être en tête de la présidentielle en Tunisie? Jeanne Calment est bien morte à 122 ans, une nouvelle étude balaie les doutes. 3 ans après l'incendie du bar Cuba Libre à Rouen, le réquisitoire 4 ans de prison requis contre les dirigeants. Et puis un nouvel accrochage des tableaux au musée d'Orsay à Paris pour donner plus de lumière aux peintres.
On parle évidemment d'artistes qui ont travaillé sous la lumière de Paris, qui se sont formés à Paris. Je trouve que c'était extrêmement plaisant de reparcourir ces salles dans cette lumière naturelle.
Reportage complet tout à l'heure. Ensuite, il sera à 13h30 et ce sera l'heure de retrouver Mathieu Vidard pour la Terre au Carré. Bonjour Mathieu.
Bonjour Bruno.
Des nouvelles de la couche d'ozone?
Oui, 1985, on s'en souvient, découverte d'un énorme trou dans la couche d'ozone. Depuis, les choses se sont améliorées grâce au protocole de Montréal, mais cette couche qui nous protège reste très fragile. Vos questions à mon invité, Sophie Godin-Beckmann, qui est spécialiste du sujet.
01 45 24 7000 pour appeler le standard. France Inter, votre début d'après-midi, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter.
Des températures au-delà des 30 dans les Pays de la Loire, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté. Cette fin d'été est digne de juillet-août. De la chaleur et très peu d'eau, près d'un mois sans pluie par exemple à Paris. Restriction d'eau dans 85 départements. On parle de crise dans 48 d'entre eux. Parole d'une hydrologue ce matin chez nos confrères de France Info. On ne sait pas quand on aura une pluviométrie capable de remplir les nappes. La situation est grave. Il y a déjà des communes alimentées par camions-citernes. Parmi les départements très touchés, il y a l'Indre. Reportage dans le parc de la Brenne. Jérôme Collin, vous avez rencontré un pisciculteur très inquiet. C'est lui qui parle en premier dans votre reportage pour constater le manque d'eau sur ces hectares d'exploitation.
Sur 3 hectares, au plus haut, on a eu 5000 m2 d'eau, 6000 m2 d'eau. Ce qui est dérisoire, quoi.
En faisant le tour des bassins de pisciculture d'Alexis Boély, le constat est effrayant.
J'ai 3 bassins de 2000 m2 qui sont pleins. Tout le reste est vide. De toute façon, on voit les étangs qui baissent de jour en jour. À l'œil nu, oui, tout à fait. C'est désolant, quoi, c'est triste.
Au fond des étangs, la terre est craquelée, les digues se fissurent, l'effet de la sécheresse, mais aussi des 2 épisodes de canicule cet été, qui ont fait beaucoup de mal au stock de poissons.
C'était une mortalité sur tout ce qui était carnassier. La deuxième canicule, au mois d'août, on a eu pas mal de mortalité sur les carpes. On espère 50% du tonnage, c'est même pas sûr, quoi. D'après ce qu'on voit, on va pas faire la moitié.
Ça veut dire un chiffre d'affaires divisé par 2 cette année, et les perspectives ne sont pas réjouissantes non plus pour 2020 et 2021. Alexis Boély emploie 2 salariés, dont son fils Adrien.
C'est pas rassurant, parce que bon, déjà le début d'année est plutôt mauvais. Donc vu qu'il n'y a pas d'eau, on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc par la suite, c'est que s'il n'y a pas d'eau et qu'il n'y a pas de pêche, et ben pas de livraison. Donc pas de livraison, donc ce sera tout de suite soit un des salariés qui va sauter, voire les 2, ou peut-être la fermeture de la boîte, on ne sait pas du tout comment ça va se passer.
Alexis Boély pourrait avoir recours au chômage technique. Le pisciculteur demande à l'État d'aider sa profession avec par exemple des exonérations de charges.
Il va falloir aussi estimer le coût de la sécheresse en France l'an dernier et il avait été estimé ce coût à 1 milliard d'euros. Nous sommes toujours à la merci d'une crise pétrolière comme au XXe siècle. Le baril de Brent prenait près de 9% ce matin à la Bourse de Londres, plus 20% pendant quelques instants à l'ouverture. Le prix à l'heure où nous parlons est au-delà des 65 $. C'est du jamais vu depuis la guerre du Golfe, ses évolutions, la guerre du Golfe il y a bientôt 30 ans. Le point de départ de ce nouveau coup de chaud sur le marché du pétrole, c'est une attaque de drones en Arabie Saoudite, le premier exportateur mondial. Samedi, deux grands sites touchés, 5% de la production mondiale en moins. Les rebelles houthis au Yémen, proches de l'Iran, ennemis de l'Arabie, revendiquent la responsabilité de l'attaque. Mais les États-Unis désignent directement l'Iran. La tension est constante entre les deux pays depuis que Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire. La toile de fond, elle est bien là. La peur d'une escalade militaire entre Téhéran et Washington et les conséquences ravageuses qu'elle pourrait avoir. Fabien Cazot, voyons les conséquences économiques d'abord, les dernières informations sur ce front et puis qui a à perdre et à gagner à une nouvelle crise pétrolière.
En remontant à un niveau de 60 $ le baril, les cours du brut ont regagné en une matinée ce qu'ils avaient perdu en un an. L'inquiétude grandit car après les cargos attaqués dans le golfe d'Oman en juin dernier, ce sont maintenant les infrastructures de production qui sont visées. À court terme, les autorités saoudiennes se montrent rassurantes. Elles ont la capacité d'écouler sur les marchés quasiment du jour au lendemain des millions de barils qui peuvent suppléer le déficit de production. Mais à moyen terme, l'aléa géopolitique prenant chaque jour de l'importance, les experts du secteur n'excluent pas des tensions durables sur les cours du brut. Quelles répercussions ? À court terme, pas de bouleversement majeur à attendre pour les automobilistes. Il faut toujours quelques mois pour voir une traduction sur les prix à la pompe. Et encore, les coûts du raffinage et les taxes qui entrent dans le calcul du prix final ne dépendent pas du cours du baril. Pour l'heure, ce sont surtout les actions de groupes pétroliers et parapétroliers qui grimpent, signant en ce lundi les plus fortes hausses du jour en tête du CAC 40.
Les Saoudiens puisent dans leurs réserves, tout comme les États-Unis, et s'activent pour réparer, relancer la production, faire baisser la pression. Combien de temps avant un retour à la normale ? Là, il y a bataille d'experts. Les réponses ce matin vont de quelques jours à plusieurs mois. En tout cas, voilà un nouveau front pour l'Arabie, engagé à sa frontière sud dans une guerre contre les rebelles houthis au Yémen, soutenu par l'Iran. Comment une attaque de drone peut-elle mettre à bas la moitié de la production pétrolière arabe en quelques heures ? Il y a deux pistes. L'Arabie est moins forte qu'elle n'en a l'air. L'attaque de samedi, plus sophistiquée qu'il n'y paraît. Écoutez Fatia Daziani. Elle travaille à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
On n'a jamais vu un tel impact sur les infrastructures aussi surveillées, très contrôlées. C'est quand même les sites stratégiques avec les lieux saints les plus protégés en Arabie Saoudite. Ça prouve que personne n'est invulnérable, hein. Surtout pas l'Arabie Saoudite, avec ce qu'elle représente en termes de production pétrolière dans l'économie mondiale. L'Arabie Saoudite est certes une puissance régionale, mais une puissance régionale un peu par défaut. Elle a beaucoup de mal à mener une guerre pourtant, disons, assez basique, classique, avec un ennemi qui n'a absolument pas la même puissance de frappe, donc les rebelles houthis. C'est vrai que depuis les tensions dans le détroit d'Ormuz cet été, beaucoup d'attaques de la part des houthis ont ciblé le territoire saoudien. Donc on peut s'interroger quand même sur une implication directe ou indirecte de l'Iran en termes de sophistication des attaques et des cibles sur le territoire saoudien.
En propos recueilli par Claude Guibal, Fatih Daziani est l'auteur de ce livre « L'Arabie saoudite en 100 questions » chez Talendier. Et à propos de ce climat international, et la Chine et l'Union européenne appellent aujourd'hui à la plus grande retenue. Dans ce Proche et Moyen-Orient sous tension, Arabie, Iran, Syrie, élections demain en Israël. Netanyahou, stop ou encore, après une campagne où il s'est un peu plus radicalisé à droite, les derniers sondages ne parviennent pas à désigner un favori entre le Premier ministre et le centriste Benny Gantz. Les élections législatives en Israël, ce sera le premier sujet d'un jour dans le monde ce soir sur France Inter à 18h20 avec Fabienne Sintès. 8 ans après avoir chassé Ben Ali, les Tunisiens n'ont plus aucune certitude sur la politique à mener dans leur pays. Premier tour de la présidentielle hier, forte abstention, moins d'un électeur sur deux s'est déplacé. Il y avait 26 candidats, le paysage est éclaté. Selon des tout premiers résultats partielle. Pour la deuxième place, au coude à coude, se trouve le candidat qui représente les islamistes d'Ennahda et l'homme d'affaires populiste en prison, Nabil Karoui. Ils sont entre 13 et 15%. Un islamiste, un homme en prison et en tête, selon ces résultats partiels sur un quart des suffrages, un candidat sans parti politique. Il s'appelle Kaïs Sayed. Il aurait recueilli, résultat partiel, je le répète, 19% des voix. Alors qui est cet homme? Peut-être le futur président tunisien à Tunis, Maureen Mercier.
Son surnom, Robocop, pour son côté rigide et sa diction saccadée. À 61 ans, il était quasiment inconnu des milieux politiques il y a encore à peine un an. Professeur de droit constitutionnel, pour lui, le droit est la seule chose qui permettra à la Tunisie de se relever, de lutter contre la corruption qui a gangréné le pays jusque dans ses élites politiques. On le dit austère, mais droit et honnête. Sa campagne, il l'a menée de manière ascétique, sans débauche de moyens. Kaïs Saïd a promis, s'il était élu, de ne pas s'installer à la résidence présidentielle, le palais de Carthage. Le bling-bling, ça n'est décidément pas pour lui. « Je ne vous vends pas du rêve », c'est son slogan. Conservateur, hostile à l'égalité homme-femme dans l'héritage, Kaïs Saïd est pour la peine de mort et le maintien de la criminalisation de l'homosexualité. Si les résultats se confirment et qu'il fera bel et bien face à Nabil Karoui, homme d'affaires, patron de télévision, bête médiatique, les Tunisiens se seront choisis les candidats les plus opposés qui soient pour ce deuxième tour à la présidentielle. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Au moins d'un mois et demi avant la sortie théorique de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, Europe et Londres peuvent-ils trouver un accord déjeuné entre le président sortant de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le Premier ministre britannique Boris Johnson aujourd'hui. Et toujours cet écart entre les Britanniques qui affirment avancer vers un accord et les Européens qui disent ne rien voir de concret arriver.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Nous sommes à présent avec l'invité de ce journal que les auditeurs de France Inter connaissent bien. Bonjour Gilles Finkelstein.
Bonjour.
Président de la Fondation Jean Jaurès, avec l'Institut Montaigne et l'Institut de sondage Ipsos Sopra Steria. Votre cercle de réflexion publie une enquête annuelle, c'est une enquête annuelle sur les fractures françaises, c'est à lire notamment dans les colonnes du Monde. Et à l'heure au fond où d'un côté un gouvernement essaie de réformer et promet d'être à l'écoute, et de l'autre où les manifestations commencent à se multiplier, eh bien cette étude tombe à point. Elle établit une fois de plus que la société française, Gilles Finkelstein, est particulièrement crispée et pessimiste.
Oui, c'est vraiment la plus grosse enquête qu'on réalise chaque année. On le fait depuis 2013 et notre pays reste un pays fracturé, à la fois sur les questions démocratiques, sur les questions économiques, sur la question de l'immigration. Un pays beaucoup plus que les autres défiant envers l'ensemble des institutions, sauf les maires, il faut le noter, défiant des plus petits, c'est-à-dire des relations interpersonnelles, on se méfie des autres, des gens qu'on ne connaît pas de manière massive, mais aussi du plus grand, c'est-à-dire de la mondialisation, où beaucoup plus que les autres pays et plus que les autres années, les Français redoutent la mondialisation. Donc ça demeure, on est un pays fracturé, on est un pays défiant, on est un pays pessimiste, mais aussi, et c'est ça qui est un des enseignements de l'enquête de cette année, c'est un pays qui bouge et notamment dont la hiérarchie des préoccupations évolue avec une percée spectaculaire des questions environnementales.
C'est un pays en quête de proximité, vous disiez, les maires échappent au désaveu, les PME également, comme par hasard, deux institutions, entre guillemets, de la proximité, tout ça c'est près de chez soi.
Oui, c'est près de chez soi.
PME, petites et moyennes entreprises, je le précise.
Voilà, PME, les maires, là, on est moins défiant que pour les autres institutions. Par exemple, les grandes entreprises inspirent moins de confiance que les petites. L'Union européenne, plus de défiance que les maires. Donc oui, il y a une demande de proximité, dans une demande générale de protection avec des Français qui sont inquiets et qui voient le monde tel qu'il évolue, la France telle qu'elle évolue, leur échapper.
On va parler des réformes économiques et sociales dans un instant, Gilles Finkelstein. Parmi les réformes en préparation, celle de la PMA qui semble plutôt acceptée désormais par la société française.
Oui, quand je disais tout à l'heure, c'est un pays qui bouge parce que ses préoccupations évoluent, mais aussi parce que c'est un pays qui reste très libéral sur les questions culturelles. Mmh. C'est vrai sur la PMA, le niveau d'acceptation des Français, que ce soit pour les femmes célibataires ou pour les femmes homosexuelles, est très élevé, 65 et 60%, donc une nette majorité qui n'existait pas il y a quelques années. Mais sur une autre question, vous prenez sur l'abolition de la ou le rétablissement de la peine de mort, il y avait eu un durcissement que l'on observait depuis plusieurs années. Eh bien là, une majorité nette, 44% de Français seulement, si je puis dire, est favorable au rétablissement de la peine de mort.
Alors la réforme des retraites, écoutons un reportage en direct de Laurent Kramer et puis on vous retrouve dans un instant, Jean Finkelstein. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
En direct du quartier de l'Opéra et en cette fin septembre, parole donc aux contestataires, à ceux qui ne veulent pas de ce projet de réforme des retraites. Ce système unique à points, fini les 42 régimes différents. Vendredi, c'était la RATP. Aujourd'hui, toute une série de professions libérales qui défendent leur régime dit autonome, avec des arguments du style « nous allons avoir plus de charges » alors que nos régimes fonctionnent parfaitement et sont même excédentaires. Le gouvernement veut mettre la main sur notre pactole. Alors rassemblement, hein, je le disais, dans le quartier de l'Opéra, Laurent Kramer, quelle ambiance, quels arguments, Laurent ?
Eh bien, plus qu'une inquiétude, les professions libérales pensent, pour certains d'entre eux, qu'il sera difficile de survivre même à cette réforme des retraites. Les infirmiers libéraux, par exemple, verront leurs cotisations doubler alors que leurs tarifs sont conventionnés.
Pour nous, les infirmiers libéraux, ce qui ne va pas, c'est que nous allons passer d'un taux de cotisation de 14 à 28,12%, passer en moyenne de 46 à 60% de charges sur les cabinets. Ce n'est pas tenable. Partout en France, vous pouvez trouver une infirmière. D'après nos études, environ 30% des cabinets sont susceptibles de fermer à cause de cette réforme.
Les médecins libéraux veulent également conserver une caisse de retraite indépendante avec les spécificités de leur métier, notamment l'âge de départ en retraite. Même inquiétude pour les avocats. La réforme laissera les jeunes avocats sur le carreau, explique Catherine Gazzeri-Rivet, ancienne bâtonnière de Tours.
Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne pour quelque chose qui, allez, on va dire qui fonctionne? La moitié du barreau français va voir ses cotisations doublées pour une pension qui diminue de moitié. Donc ça va créer des cabinets qui vont fermer et donc des déserts judiciaires.
Les professions libérales veulent obtenir du gouvernement une dérogation et faire partie des exceptions légitimes pour échapper à cette réforme.
Merci Laurent Kramer en direct du quartier de l'Opéra. Jean Finkelstein, on vous retrouve, vous qui êtes président de la fondation Jean Jaurès, et alors que paraît cette étude sur les fractures françaises, est-ce que ça signifie dans cette société pessimiste, sceptique, qui rejette une partie de ses institutions, qu'il n'est plus possible de réformer ?
Alors c'est difficile de réformer parce qu'il y a une défiance envers toute parole publique. C'est vrai des responsables politiques, mais c'est vrai aussi des responsables syndicaux, c'est vrai des experts, c'est vrai des médias, c'est vrai des partis politiques davantage encore. Le niveau de confiance envers toutes ces institutions est extrêmement faible. Mais si on parle des retraites, il faut ajouter qu'il y a une défiance envers le système actuel. Vous avez les trois quarts des Français qui considèrent que le système actuel est injuste, qu'il est incompréhensible et qu'il n'assure pas durablement la pérennité du système des retraites. Donc, on est face à une mer de défiance, et c'est cette mer de défiance que, c'est vrai pour les retraites, mais c'est vrai de manière générale, le gouvernement, quel qu'il soit, doit affronter s'il veut réformer le pays.
Et les agents des impôts également en manifestation aujourd'hui contre les suppressions de postes. Cela signifie, Gilles Finkelstein, que ce mantra de « on est à l'écoute, on débat, on dialogue » que répète le président, le premier ministre depuis la rentrée particulièrement, ce mantra-là, il est indispensable ?
Il est indispensable. Je crois que c'est une des leçons que le président de la République et le gouvernement ont tirées à juste titre du mouvement des Gilets jaunes et de ce qu'a été le premier acte de ce quinquennat. Et donc tout l'enjeu est de réussir, et de réussir dans la durée, à instaurer un autre mode de gouvernement de ce pays.
Allez, si vous avez encore 1 minute 22, chaque lundi dans ce journal de 13h, on diffuse une archive qui résonne avec l'actualité. Il y a 50 ans, le discours de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre de Pompidou, sur la nouvelle société. Qu'entendait-il par là avec cette expression « nouvelle société » ? Avant de prononcer son discours, il donnait quelques éléments de définition à la télévision. On était le 3 septembre 69.
La nouvelle société, cela signifie qu'il n'y a pas que les éléments matériels qui sont en cause dans une société, c'est-à-dire en France. Il y a naturellement les éléments matériels, c'est-à-dire qu'il faut la prospérité. Car si l'on veut répartir, il faut disposer de quoi répartir. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la façon dont la vie tout entière est envisagée. Si vous voulez, il n'y a pas que le niveau de vie, il y a autre chose. Il y a aussi le mieux-être. Il ne suffit pas d'avoir plus de moyens. Il faut être plus juste et je crois même que surtout il faut être plus fraternel. C'est un travail de longue haleine dans lequel nous nous engageons. Son succès, nous ne chercherons nullement à en faire un succès politique, un succès du gouvernement, il ne s'agit pas de cela du tout. C'est vraiment l'opération d'intérêt national type. Eh bien, laissez-moi vous le dire, j'ai confiance. J'ai confiance dans le fait que par tous et pour tous, dans l'intérêt véritablement commun, nous allons réussir cette opération qui me paraît dès à présent bien engagée.
Gilles Finkelstein, comment ces mots résonnent-ils à vos oreilles? Il n'y a pas que le matériel, plus de fraternité, plus de justice, plus de mieux-être. Voilà ce qu'il faut aussi à la société française. Qu'en dites-vous?
J'en dis que ça résonne formidablement avec l'époque actuelle. C'est d'ailleurs une des rares déclarations de politique générale de l'histoire de la Ve République que l'on ait retenu. Et ce qui fait écho avec l'enquête que nous publions aujourd'hui, c'est sans doute ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la progression spectaculaire de la préoccupation environnementale. Oui. Et dans, il n'y a pas seulement les éléments matériels, il y a aussi la qualité. Eh bien, cette préoccupation environnementale ressort de manière très claire. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit à quel point cette préoccupation s'est diffusée dans l'ensemble de la société. Elle n'est pas une préoccupation seulement d'une partie, oui, des plus diplômés, des plus riches, des plus urbains, des plus jeunes. C'est vrai qu'elle l'est davantage dans ces catégories-là, mais elle a été massivement diffusée dans l'ensemble de la société. Et je crois que c'est un des éléments les plus instructifs de cette enquête.
Cette enquête qu'on retrouve notamment dans les colonnes de nos confrères du Monde sur les fractures françaises. Merci beaucoup Gilles Finkelstein d'avoir répondu à nos questions. J'ajoute que la fronde sociale, ce sera le thème du Téléphone Sonne ce soir avec Fabienne Sintès. Alors en tout cas, Emmanuel Macron met la pression sur ses ministres pour qu'ils réforment et pour qu'ils avancent dans les réformes. Yael Goz, vous nous en parliez en titre, il dispose de tout un système pour suivre très en détail l'avancement des réformes.
On va d'abord parler papier, document papier. Oui. Ça, c'était en séminaire la semaine dernière. Les ministres sont arrivés, ils ont eu un tableau de bord, un état d'avancement réforme par réforme, papier imprimé, qui a réalisé quoi, comment, solidarité bien sûr, mais aussi émulation, parce qu'on sait qui est en avance et qui est en retard. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que si les ministres ont un retour ponctuel sur leur travail et celui de leurs collègues, cette surveillance-là, elle est permanente du côté de Matignon et de l'Élysée. Emmanuel Macron, Édouard Philippe et leurs deux directeurs de cabinet se connectent effectivement régulièrement à une sorte d'appli privée qui dresse un tableau de bord sans cesse réactualisé de l'action gouvernementale. Donc ils ont une synthèse mise à jour, thème par thème, ministère par ministère. À l'Élysée, on préfère parler plutôt d'indicateurs de suivi classiques comme en entreprise. Il n'y aurait pas un père fouettard le nez rivé sur son mobile, jure un conseiller, n'empêche, un peu fouettard quand même, parce que sa marque de fabrique, Emmanuel Macron en parlait déjà en campagne, c'est qu'un ministre et son administration produisent vite du résultat. Il ne suffit pas de voter, il faut appliquer les lois. Donc surveillance maximale, le président était très ferme avec ses ministres, il leur a dit, on ouvre une nouvelle page politique sans changer d'équipe, donc pas de remaniement, d'accord? Mais si on ne change pas d'équipe, il faut que vous changiez vos méthodes. En substance, si vous ne changez pas, je vous change. Deuxième effet qui se coule de l'acte 2, humanité, proximité, d'accord. Emmanuel Macron a ajouté efficacité.
Sur le tableau de bord de Jean-Michel Blanquer, quelques points noirs en cette période de rentrée en Ile-de-France, notamment en Seine-Saint-Denis, des collèges où il manque des profs, où il manque des cours. Collège Jean Moulin de Montreuil en particulier. Reportage Faustine Calmel.
Pour la fille d'Émilie, entrée en cinquième, il manquait deux matières.
Pas de PS, pas d'allemand. Ça craint, parce que même si le PS et l'allemand sont pas des matières aussi critiques, entre guillemets, que le français ou les maths, c'est quand même un trou dans l'emploi du temps et un manque du devoir de l'éducation nationale de pourvoir l'éducation à nos enfants.
Certains élèves étaient privés de 10 heures de cours par semaine. Après une grève et un blocage du collège, des enseignants ont été nommés, admet Victoire Lecoeur de la Fédération de parents FCPE, mais...
Il y a eu des noms d'enseignants et puis finalement ces enseignants, ils sont injoignables et se sont pas présentés à leur poste.
Certains étaient déjà affectés ailleurs, d'autres avaient des emplois du temps incompatibles avec leur nouvelle mission. 15 jours après la rentrée, les postes sont pourvus au compte-gouttes, ce qui ne calme pas la colère des professeurs.
Nos élèves qui sont en réseau d'éducation prioritaire et qui devraient bénéficier de conditions d'enseignement aménagées, eux n'ont même pas accès aux heures qui leur sont dues comme à tous les autres élèves de France. Donc on est très en colère. Pour nous, non, la rentrée ne s'est pas bien passée et nous ne sommes pas le seul établissement dans ce cas-là.
Il manque encore au collège Jean Moulin des heures d'atelier pour les élèves en difficulté et un médecin scolaire.
Quel repreneur pour la compagnie Aigle Azur. 3 dossiers sont étudiés, nous dit Philippe Lefebvre qui suit cette actualité. Autre information issue des travaux du tribunal de commerce, les trous dans les caisses. Le trou dans les caisses est beaucoup plus important que prévu ou qu'annoncé initialement. Non pas 50 millions d'euros, mais près de 150. Ils sont accusés de ne pas avoir respecté les normes de sécurité. Les deux gérants du Cuba Libre, le bar de Rouen où un incendie avait fait 14 morts en août 2016, le réquisitoire ce matin dans ce procès. 4 ans de prison ont été requis. Des soi-disant chercheurs russes avaient jeté le doute sur une icône nationale. Jeanne Calment, la doyenne française de l'humanité, morte à 122 ans en 1997. C'était une imposture selon ces Russes. Sa fille aurait pris sa place. Eh bien non, Lisa Guyenne, une étude scientifique beaucoup plus solide confirme que la célèbre arlésienne a bien battu tous les records.
Oui, les Russes affirment que Jeanne Calment est morte autour de 60 ans et qu'elle a été donc remplacée par sa fille Yvonne, qui aurait vécu sous son nom jusqu'en 97. Sauf que cette thèse ne tient pas, car Yvonne Calment est morte à 36 ans, en 1934, et ses obsèques se sont déroulées devant de très nombreux témoins, explique Jean-Marie Robine, directeur de recherche émérite à l'INSERM et auteur de cette nouvelle étude.
C'est tout à fait impossible, non seulement parce qu'il y avait énormément de gens aux obsèques, il aurait fallu tricher avec le personnel des tombes funèbres, avec les employés de la municipalité, il aurait fallu conserver cette machination pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est juste impossible, quoi.
Pour étayer sa contre-enquête, l'équipe franco-suisse a épluché des centaines d'archives et de documents financiers. Le résultat est sans appel.
Leur hypothèse ne repose strictement sur rien. Tout est balayé, enfin, il ne reste rien, il n'y a aucun doute.
Pour Jean-Marie Robine, cette controverse a été mise en scène et d'ailleurs le CV des chercheurs russes est plus que douteux.
Franchement, ce ne sont pas des scientifiques. On ne sait pas où ils ont fait leur thèse. Ils ne travaillent pas dans des universités ou dans des centres de recherche. Et puis, quand on regarde leur liste de publications, ils n'en ont pas.
Bref, tout indique que Jeanne Calment est bien morte à 122 ans. Selon les chercheurs franco-suisses, elle avait une chance sur 10 millions pour atteindre ce record de longévité.
Merci Lisa. Et quand Jeanne Calment est née, Claude Monet avait peint depuis quelques mois, quelques années, Impression, Soleil, Levant. Les impressionnistes abrités au musée d'Orsay à Paris. Ce musée, l'un des plus grand dans la capitale, inaugure un nouvel espace d'exposition pour une partie de ses chefs-d'œuvre. La nuit étoilée de Van Gogh, le cheval blanc de Gauguin, toutes les collections post-impressionnistes. Avec quelques acquisitions, tout cela est désormais dans les étages, au 5e étage. Décor rénové, parcours de visite repensé. Reportage Adrien Serrière.
Prime à la logique et à l'élégance. Les post-impressionnistes sont maintenant exposés dans la continuité des impressionnistes. 9 salles au décor léger, aéré et lumineux. Par les fenêtres, on contemple les toits parisiens, Montmartre, l'Opéra Garnier, des lieux intimement liés aux peintures de Van Gogh, Bernard ou Sérusier, comme un clin d'œil souhaité par la directrice du musée d'Orsay, Laurence Descartes.
On parle évidemment d'artistes qui ont travaillé sous la lumière de Paris, qui se sont formés à Paris, qui ont passé une grande partie généralement de leur carrière à Paris. Et donc il y a là une espèce de dialogue direct entre cette ville et ces artistes. Et je trouve que c'était extrêmement plaisant de reparcourir ces salles dans cette lumière naturelle.
Les visiteurs ont plus d'espace pour circuler dans ces galeries très fréquentées. Roland, un habitué du musée, apprécie particulièrement la mise en scène des œuvres de Gauguin.
Une meilleure mise en espace, au niveau des toits, il y a un peu plus de recul, le fond est beaucoup plus agréable aussi. C'est un peintre remarquable, je pense qu'il a enfin trouvé son écrin.
Après avoir franchi la majestueuse porte de la dernière maison de Gauguin aux îles Marquises, le visiteur termine ce nouveau parcours au milieu des silhouettes du cabaret du Chat Noir et se referme ainsi cette immersion dans le bouillonnement artistique de la fin du 19e siècle.
Allez, quelle lumière dans le ciel aujourd'hui.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous,
Comment ça va ?
Élodie Calac.
Des nuages circulent entre les côtes de la Manche, le Nord, l'Alsace. Ça n'empêche pas de bons moments de soleil. Sauf peut-être sur le Pas-de-Calais, le Nord, les nuages sont plus épais, ils donnent quelques gouttes. Les températures baissent un peu, mais ça reste estival. 20 degrés à Dinard et au Havre, 23 à Lille, 27 à Metz. Partout ailleurs, le soleil est bien installé. Sous l'effet de la chaleur, des nuages bourgeonnent en montagne. Sur les Alpes et le Massif central, une averse est possible. Et puis sur les Pyrénées, des orages peuvent éclater. Comptez 28 degrés à Bastia, 30 à Angers, 31 à Dijon, 32 degrés à Bourges, La Rochelle et Agen, 33 à Lyon, 34 degrés à Brive et à Montélimar. Un temps estival va persister une grande partie de la semaine. Il faudra attendre dimanche pour voir une dégradation et enfin de la pluie.